Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est toujours un plaisir pour moi et pour les chroniqueurs de l'émission de commenter et de vous présenter les événements musicaux passés et à venir. Pour ce numéro, les amis chroniqueurs sont venus en nombre pour m'assister dans cette tâche. À mes côtés aujourd'hui, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Je salue aussi le retour de Serge Krichevski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, directeur de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Notre quintette a l'honneur de recevoir Emmanuelle Sirat, fondatrice et directrice artistique du festival Musique au Palais, dont la quatrième édition a lieu le week-end des 24 et 25 novembre à Toulouse, au Palais Niel. Nous allons nous plonger dans sa programmation avec Emmanuelle Sirat en seconde partie d'émission. Pour l'instant, retour sur la très riche actualité musicale de la semaine passée pour la première partie de ce numéro.
Mélomanie. Retour arrière.
Et parmi les nombreuses soirées musicales de la semaine dernière, il y a eu le récital qu'a donné jeudi la contralto québécoise Marie-Nicole Lemieux au Théâtre du Capitole. Elle a interprété, accompagnée par le pianiste Roger Vignol, des mélodies sur des poèmes de Baudelaire et des leaders sur des poèmes de Goethe. Notre grand expert et passionné du chant lyrique Robert Pénavert a assisté à ce récital. Il va pouvoir nous faire part de ses impressions. Alors Robert, comment avez-vous trouvé la prestation de Marie-Nicole Lemieux ?
Alors en fait, c'était le deuxième récital d'une série prestigieuse de récitals que nous propose Christophe Gristy et qui a démarré avec un somptueux récital de Max Emmanuel Chenchich qui malheureusement n'a pas eu le succès public escompté alors que Marie-Nicole Lemieux a fait quasiment ça le comble. Il faut dire que son récital était inclus dans l'abonnement Florilège. Et d'ailleurs, c'est une bonne idée parce qu'en définitive, peut-être que spontanément, bon nombre des personnes qui étaient là ne seraient pas venues puisque la formule récital, on le sait, est une formule très exigeante et qui demande beaucoup d'attention, peut-être même beaucoup de connaissances. Les trois quarts du temps, il vaut mieux être germanophone, parce que sinon, ben voilà, on comprend pas les textes. En fait, les textes, c'est quasiment la moitié de l'heure.
Et voilà.
Alors, en même temps, je pense qu'il y a eu le fait que Marie-Nicole Lemieux est quand même connue à Toulouse. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est venue déjà à plusieurs reprises. Alors, ce soir-là, très clairement, d'ailleurs, quelque chose m'a un peu attiré le regard, c'est qu'elle s'était fait installer sur la scène du Théâtre du Capitole à côté du piano, un petit guéridon avec une carafe d'eau, un verre, bon. Mais elle l'a beaucoup utilisé, et puis elle se raclait souvent la gorge. Je ne l'ai pas senti...
Au mieux de sa forme. Bon.
Bon, ben voilà. Le programme était plus que tentant. Et il s'intitulait « L'âme chantée ». C'est une invitation vraiment extraordinaire. Mais quand on parle de lead, quand on parle de mélodie, évidemment, il est très rare, mis à part parfois avec Poulenc, avec Satie, mais il est très rare d'avoir des textes qui vous font plier en deux de rire, hein, en particulier dans le lead allemand. Et donc voilà, « L'âme chantée » allait nous amener dans un voyage... Et effectivement, c'est sur des textes de Goethe pour la partie allemande et de Baudelaire pour la partie française que le programme avait été bâti. Et donc, bon, on a entendu toujours Marie-Nicole Lemieux, qui est une très fine musicienne. Bon, très clairement, ce soir-là, on l'a beaucoup appréciée, particulièrement dans son médium, dans sa musicalité, dans son phrasé, dans l'intelligence de son texte, etc. Bon, mais il est marqué sur le programme qu'elle est contralto. À l'évidence, à l'entendre, ce n'était pas le cas, puisque les notes graves étaient extrêmement discrètes. Mais peut-être c'était dû au fait qu'elle n'était pas en forme,
simplement.
Bien sûr, oui. Et quant au registre supérieur, qui pourtant n'était pas extrêmement sollicité, il est devenu un peu métallique. Bon, il n'y a pas eu d'accident et tout ça, elle maîtrise ça parfaitement, hein, mais ce n'était pas la Marie-Nicole Lemieux que l'on a l'habitude d'entendre. Voilà. Et le pianiste britannique Roger Vignol l'a accompagné parfaitement. Alors, je vous signalais que c'est vraiment une cantatrice formidablement sympathique, formidablement. Franchement, on n'a pas l'impression qu'elle se prenne la tête. Elle est là, très naturellement, à tel point qu'à un moment, elle s'est arrêtée au milieu d'une mélodie parce qu'elle s'est aperçue qu'il y avait des spectateurs qui la prenaient en photo avec leur téléphone. Et alors, à un moment, elle a arrêté le pianiste, elle a dit stop. Et elle leur a expliqué, elle a dit, écoutez, bon, voilà, à la fin, vous me prendrez en photo tant que vous voudrez. Mais vous savez, elle a dit quelque chose de formidable, je trouve, formidable. Et ça, il n'y a qu'une artiste pour se permettre ça, d'interrompre le cours d'un concert, quand même. Et elle a dit, écoutez, voilà, nous avons la chance de nous retrouver ensemble ce soir. Moi, je suis très heureuse, mais s'il vous plaît, restez avec moi. J'ai trouvé ça formidable. Parce que c'est vrai, à partir du moment où vous photographiez, vous enregistrez, vous n'êtes plus là. Donc, bravo pour cette initiative. Alors, du coup, tout le monde a rangé son téléphone. Ça a été terriblement...
Personne ne bronchait.
C'était terriblement efficace. Beaucoup de succès, bien évidemment. Et moi, j'en suis ravi. J'étais le premier à applaudir. Et Ambi, ça nous a offert un lead de Schubert court. Et ensuite, comme elle avait débuté le cycle avec la mélodie de Schumann, Gehst du das Land, connais-tu le pays ? Eh bien, en définitive, elle nous dit, ben voilà, je vais boucler le voyage en vous chantant Connais-tu le pays, mais d'Ambroise Thomas. Et donc, Connais-tu le pays, ou Fleur et l'Oranger, etc., qui est un air absolument somptueux. Et elle nous a chanté ça avec beaucoup, beaucoup d'émotion. Elle nous l'a offert, mais vraiment avec son cœur. Et c'était extraordinaire. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et vraiment, c'était formidable. Bravo. Alors, je voulais terminer cette courte séquence en disant que, par la suite, il y a 5 autres récitals, mais également de très, très haut niveau.
Et l'ensemble de la saison est vraiment de très haut niveau cette année.
Ce sont les gens qu'on entend dans la série des Grandes Voix au Théâtre des Champs-Élysées. C'est quasiment ce qui fait mieux, sauf que c'est entre 10 et 20 euros la place.
Oui, donc là, c'est un des tarifs beaucoup plus abordables qu'ailleurs.
Voilà. Et au Champs-Élysées, multipliez ça par 5.
Voilà.
Et donc, à venir, Christian Gerhaher, c'est un chanteur de lead extraordinaire. Mathias Gurn, qu'on ne présente pas, il est déjà venu à Toulouse dans ce genre d'exercice. Stéphane de Goût, est-il utile de le présenter ?
Oui, lui aussi, il est venu souvent.
Il y aura aussi quand même Stéphanie Doustrac. Et on terminera la saison avec notre dernière Lady Macbeth, qui est Béatrice Auriat-Mauzon. Donc, vous voyez, c'est un programme généreux et très tentant. Voilà.
Le prochain récital, c'est Christian Gerhaher, le vendredi 30 novembre. Alors, le lendemain du récital de Marie-Nicole Lemieux, vendredi 27 octobre, il y avait le concert du Toulouse Wind Orchestra à Saint-Pierre-des-Cuisines et celui donné en hommage à Lili Boulanger à la chapelle des Carmélites pour commémorer le centenaire de la mort de la compositrice. Les deux ont d'ailleurs été redonnés le samedi 28. On va commencer par l'hommage à Lili Boulanger pour lequel étaient réunis la flûtiste Sandrine Tilly, la pianiste Anne Lebozec, les chanteurs Yaël Ranan Vandor et Thomas Dollier, ainsi que le chœur du Capitole dirigé bien sûr par Alfonso Cayani. C'est le Théâtre du Capitole qui a organisé ce concert sur une idée de Christophe Gristi, son directeur artistique. Alors, la diversité des forces en présence donnait une idée de la diversité du programme. Nous y avons assisté tous les deux, Anne-Marie Chouchan. À titre personnel, je dois dire, j'ai été véritablement soufflé par la beauté des œuvres que j'ai entendues. Il y en a beaucoup que je ne connaissais pas. C'était vraiment splendide. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Anne-Marie ?
Oui, tout à fait, parce que j'ai découvert l'univers musical de Lili Boulanger, jeune compositrice française qui est décédée à 25 ans. Et à cet âge-là, elle avait déjà fait beaucoup de choses, la preuve. Et cette soirée qui lui rendait hommage était quelque chose qui exprimait tout de même, à travers les œuvres choisies, beaucoup de gravité, une grande tristesse, puisqu'il y a une pièce qui s'appelle « Dans l'immense tristesse ». C'était une époque où, malheureusement, il y avait beaucoup de drames, puisqu'elle est décédée en quelle année ?
En 1918. Elle est morte en mars 1918, une dizaine de jours avant Claude Debussy.
Donc voilà, c'était le début du XXe siècle et d'une guerre terrifiante et qui se terminait. Mais tout de même, donc on a découvert tout un répertoire des œuvres vraiment très belles, aussi bien avec chœur où on pouvait entendre le chœur du Capitole, des pièces pour flûte et piano avec Sandrine Tilly qui nous a joué de merveilleux nocturnes et cortèges, accompagnées par le piano d'Anne Lebozec. Donc c'était une soirée de musique à la fois de chambre, chorale, dans laquelle on pouvait apprécier l'art d'une compositrice méconnue, dans des répertoires très divers et très riche en même temps, donc musique de chambre, chœur, et on était très touchés par ces mélodies. On avait la mezzo-soprano Yaël Ranan Vandor, que je ne connaissais pas, d'autres solistes, et pour terminer par ce De Profondis pour contralto, ténor, chœur et piano, que je n'avais jamais entendu, qui est aussi une œuvre poignante. Donc c'était une grande découverte et une soirée de grande qualité musicale et vocale.
Alors, je me demandais, Serge Krichevski, le musicien parmi nous, Lily Boulanger, est-ce que vous connaissez un peu son œuvre? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je connais surtout sa réputation au travers de ce qu'on a dit et ce qu'on a transmis à sa sœur Nadia, hein, puisqu'elle a porté vraiment très très haut, jusqu'au sacrifice, je crois, l'œuvre de sa sœur Lily. C'était méconnu pour beaucoup de membres du public, mais je pense que pour Christophe Gristy, c'est pas méconnu, puisqu'il a fait un certain travail sur l'œuvre de Lily Boulanger, sur le travail de sœur. Nadia Boulanger a elle-même écrit aussi un peu, et j'ai entendu effectivement parler de cette musique comme une musique de grande qualité, et effectivement ce que vous disiez Anne-Marie correspond à ce que j'ai entendu aussi dire, hein. Mais c'est une musique que je ne connais pas, donc j'aurais bien aimé être là et avoir l'occasion certainement un jour ou l'autre d'entendre cette musique.
Je crois qu'à travers toutes ces pièces, c'était le souci de l'expression. Assez grave, très grave même. C'est marqué par quelque chose de plus bouleversant, de poignant souvent, mais en même temps, ça traduit aussi, ça exprime la qualité d'une compositrice qu'on connaît très très peu, et c'était donc une révélation pour moi.
Alors, ça correspond à peu près, Eric disait la mort de Debussy, mais il y a également la fin de la vie de Forêt. Est-ce que vous pouvez classer un petit peu, il y a des analogies musicales
à ce sujet? Il faut dire qu'elle était l'élève de Forêt, mais très jeune, très jeune, parce qu'elle est tombée malade. Je crois qu'elle avait 2 ans quand elle est tombée malade. Elle était malade en gros toute sa courte vie, malheureusement.
C'est ça.
Et puis les dernières années, je pense qu'elle sortait pas, elle restait assez chez elle, elle souffrait beaucoup. Donc elle est effectivement l'élève de Forêt. Elle est issue d'une famille de musiciens. C'est-à-dire son père était musicien. Le côté de la mère, c'était russe. Il y a quelque chose de très mystique, dans ces sujets sont souvent très mystiques. Les œuvres qui ont été jouées, je vais redire les titres, hein. Il y a Pour les funérailles d'un soldat, avec le chœur du Capitole. Nocturne, c'est la pièce pour flûte et piano. Cortège a été joué aussi avec flûte et piano, Sandrine Tilly et Anne Le Bozec, mais à l'origine c'est pour piano et violon. Et puis il y avait 4 mélodies, dont une, je crois qu'il y en avait une sur un poème d'Alfred de Musset, j'ai pas tout retenu. Puis donc à la fin, le De Profundis. Donc des œuvres souvent graves, très profondes. Avec moi, il m'a semblé, et j'en ai parlé avec Sandrine Tilly après, et Dieu sait si elle connaît Debussy pour avoir beaucoup joué le faune, il y a l'influence de Debussy qui, moi, apparaît
d'accord,
très clairement.
Hein. Oui.
Donc vraiment, c'était très très beau. J'espère que ça donnera envie aux programmateurs, à tous ceux qui font des concerts à Toulouse, de jouer la musique de Lily Boulanger dans les années qui viennent.
Par rapport à Debussy, et même peut-être à Fauré, c'est-à-dire aux compositeurs français de cette époque, il y avait, semble-t-il, en elle, un souci très net d'exprimer quelque chose, de mettre l'accent sur l'expression, plus que la technique musicale, plus que le langage musical lui-même. C'est un langage qui reste, je pense, classique, en fait, d'une harmonie classique, mais qui est toujours au service d'une expression très forte.
Et est-ce qu'il y avait, dans le pathos exprimé dans ses œuvres, un lien délibéré envers les victimes de la guerre de 14-18, ou pas forcément, non? C'était juste le climat qui lui suggérait...
Pour les funérailles d'un soldat, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, composé en 1913, donc c'est avant le début de la Première Guerre mondiale, le De Profundis, elle le compose de 1910 à 1917. Alors effectivement, je pense qu'il y a des choses
parce
qui passent.
Parce qu'on songe à un autre De Profundis écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est un des mouvements, le troisième mouvement ou le second de la symphonie liturgique d'Honegger, un magnifique mouvement écrit pendant la guerre en hommage à cette période.
J'ai du mal à croire que même du fond de son lit de douleur, qu'elle n'ait pas senti les ondes et qu'elle était forcément informée de tout ce qui se passait sur le front à l'époque. Alors Cortège, je ne sais plus ce qui lui a inspiré ce titre, pourquoi ça s'appelle Cortège. Celle-ci, c'est une des rares pièces qui est plutôt un peu guirette. Les pièces pour flûter piano sont beaucoup moins graves, évidemment.
C'est l'époque aussi des faunes et toutes sortes de Bacchus qui circulent entre Pierre-Nez, Debussy.
À un moment, à la flûte, on entend vraiment le faune. On le sent passer. Alors, je voulais juste rapporter une anecdote. C'est qu'à la fin du De Profundis, au moment où la dernière note a retenti, eh bien, en même temps, juste à ce moment-là, on a entendu les cloches de Saint-Sernin. C'était incroyable. C'était la fin du concert. Alors, pour vous faire écouter la musique de Lily Boulanger, je vous propose son nocturne pour flûte et piano. C'est pas Sandrine Tilly et Anne Le Bozec, mais vous allez voir, c'est très joli quand même. Thank you. le très joli nocturne pour flûte et piano de Lily Boulanger, qu'ont joué Sandrine Tilly et Anne Lebozec lors du concert hommage à la compositrice française morte il y a 100 ans. Merci à Christophe Gresti et à l'équipe du Théâtre du Capitole d'avoir fait redécouvrir l'œuvre de Lily Boulanger. Et je le redis, j'espère qu'on l'entendra encore dans les années qui viennent parce que ça en vaut vraiment la peine. Les mêmes vendredis et samedis soirs à Saint-Pierre-des-Cuisines, il y avait donc les concerts du Toulouse Wind Orchestra. Serge, nous étions au concert vendredi soir et c'était une toute autre ambiance qu'à la chapelle des Carmélites. Parce que 80 musiciens sur un plateau avec beaucoup de cuivre, ça envoie du bois, comme on dit. Quelle soirée vous ont-ils fait passer, Serge ?
Ah, une excellente soirée. Il faut rappeler tout de même que le Toulouse Wind Orchestra a été fondé en 2015. Donc c'est un jeune orchestre composé de musiciens bénévoles et qu'il a été classé 3e mondial au World Music Contest de Kerkrade en Hollande en 2017. Donc c'est vraiment un orchestre qui a déjà une histoire.
Oui, qui a des références.
Qui a des références. Un orchestre d'instruments avant. Mais où viennent s'intégrer parfois les violoncelles et les contrebasses. Bon, il a déjà donné, c'est au moins son 3e concert dans ce cadre à Toulouse. Et donc ces concerts du 26 et 27 recouvraient un programme un peu inhabituel aussi, puisqu'il y avait d'abord une œuvre de Florent Schmitt. Qu'est-ce qu'on connaît de Florent Schmitt à part la tragédie de Salomé? Quelques fois qu'on l'entend en concert, mais pas très souvent. Et là, c'était une œuvre que j'avoue avoir découverte, qui s'appelle Dionysiaque.
C'est aussi mon cas.
N'est-ce pas ?
Je m'entends.
Bon, une œuvre très belle, très colorée, composée spécifiquement pour ensemble d'instruments avant, d'ailleurs composée pour la musique de la garde républicaine.
Mais ça, ce n'était pas un arrangement.
Pas un arrangement, c'était original pour évoquer, selon Florent Schmitt, l'exubérance des fêtes de la Rome antique. Bon, c'était dans l'honneur du dieu du vin, donc Dionysos, évidemment. Et vraiment, ça a été très très bien joué, avec beaucoup de précision, et effectivement a été dirigé par un jeune chef qui n'était jamais venu, je crois, ici, Romero, voilà.
Romero, oui.
Voilà. Vraiment un chef très précis qui apparemment était vraiment en correspondance directe avec l'ensemble des musiciens. C'était très très beau dans ce poème symphonique. Moi pour ma part, j'ai entendu comme un écho de l'apprenti sorcier de Paul Ducamp avec des petites performances des bassons tout à fait particulières. Ça c'était la première partie. La deuxième œuvre était une création mondiale même. C'était la création d'un concerto pour hautbois de Gabriel Philippot. Un jeune compositeur et chef d'orchestre d'ailleurs, et qui était présent.
Et oui, qui a assisté évidemment à la création de son œuvre.
Et donc c'est un compositeur de musique instrumentale, mais aussi d'opéra. Il a donc composé un concerto de structure tout à fait classique, en 3 mouvements. Et le hautboïste solo était tout de même quelqu'un de bien connu, puisqu'il s'appelle... Alexandre Gatté. Et c'est le hautbois solo de l'Orchestre de Paris. Je suppose que Serge Krichewski doit connaître.
Oui, ben, il a été, d'ailleurs, ça a peut-être été noté sur le programme, il a été élève au Conservatoire de Toulouse, après avoir commencé à Albi.
Le point commun des musiciens de Toulouse Wind Orchestra, c'est que ou ce sont des Toulousains, ou ce sont des musiciens qui sont passés par le Conservatoire de Toulouse.
Oui, c'est ça.
L'immense majorité en tout cas.
Et c'est le cas d'Alexandre Gatté, qui a magnifiquement joué ce concerto, avec beaucoup de joie dans le premier mouvement, puis avec une cadence en particulier que je trouvais tout à fait impressionnante, très raffinée. Et également quelques solos d'instruments pas très courants. Par exemple, il y a un solo d'euphonium qui dialogue dans le deuxième mouvement avec le hautbois. Donc, c'était très intéressant.
Il est vrai que cet orchestre, c'est un peu un cabinet de curiosité tout de même.
Tout à fait. Un orchestre vraiment très sonore. L'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, l'acoustique était pleine.
Oui, il y avait des décibels.
Il y avait quelques décibels, mais ça ne saturait jamais.
Non, en tout cas, nous, on était...
Vraiment. Et enfin, dernière œuvre, donc, au programme. Alors ça, c'était une transcription du fameux poème symphonique d'Ottorino Respighi, Les Pins de Rome, le plus célèbre, le plus connu, puisqu'il a composé en fait 3 poèmes symphoniques à la gloire de la ville éternelle, puisqu'il y a les fontaines de Rome et les fêtes romaines. Et là, c'était Les Pins de Rome. Et l'arrangement pour instrument avant était signé d'un certain Yoshihiro Kimura.
Et oui, c'était un arrangement d'un japonais.
Et c'était stupéfiant. Oui. On avait l'impression à écouter cette œuvre qu'elle était composée pour instrument avant.
Elle était d'origine, oui.
Ah oui. Non, mais il n'y avait aucun rétrécissement de la beauté, des couleurs. Ça a été vraiment un très beau moment.
C'était très beau. Très beau.
Très effervescent, avec notamment dans l'ouverture, la fête célèbre ouverture. Et le crescendo final, alors là, ça atteignait...
Et puis, on a eu droit, bien sûr, au petit rossignol.
Ah, il y a eu le chant du petit rossignol enregistré, évidemment, qui était retransmis. Donc, très très bien, une belle soirée qui a été tellement appréciée qu'il y a eu un bis. une œuvre qui s'appelle Mothership, d'un compositeur américain qui s'appelle Mason Bates. Et là, vraiment, tous les solistes défilent. Il y a solo de trompette, de clarinette.
Encore une découverte.
Excellent clarinettiste, d'ailleurs, le premier clarinettiste.
Ah oui, mais là, avec des... tous les musiciens.
Ah, mais avec des nuances bon, incroyables. Ouais. Donc, écoutez, bravo à l'ensemble et bravo à Mathieu Romano, donc, qui a dirigé tout ceci avec beaucoup d'empathie avec l'ensemble des musiciens.
Oui, il y a beaucoup d'amitié entre les
musiciens. Un très grand succès mérité. Hein,
oui, le Toulouse Wind Orchestra, une formation à suivre pour suivre l'actualité de cet orchestre. N'hésitez pas à vous connecter au site internet du Toulouse Wind Orchestra. Ils sortent en plus un CD presque tous les ans, donc on peut les réécouter en dehors de leurs concerts. Dernier concert sur lequel nous allons revenir dans cette première partie d'émission. Celui qu'a donné l'Orchestre National du Capitole samedi à la Lohgrin sous la direction du chef allemand Michael Zanderling. Il y avait au programme la monumentale 7e symphonie de Bruckner et le 2e concerto pour violon de Mendelssohn, pour lequel l'Orchestre du Capitole accompagnait la violoniste écossaise Nicola Benedetti. Là, c'est Anne-Marie et Serge qui étaient présents dans la salle, Serge Chouzy et Serge Krzyzewski qui étaient présents dans l'orchestre. Ce très beau programme et son interprétation ont-ils recueilli vos suffrages à l'un et à l'autre ? Ou à l'une et à l'autre.
C'était deux œuvres très différentes, évidemment. Hein. Le 2e concerto pour violon et orchestre de Mendelssohn, bon, est un immense classique.
Oui,
c'est l'un des grands concertos romantiques que tous les grands solistes s'arrachent, en quelque sorte. Et c'était joué donc par cette jeune britannique, écossaise même, Nicola Benedetti, qui était déjà venue.
Comme son nom l'indique, elle est écossaise, oui, Nicola Benedetti.
N'est-ce pas ? Et je me souviens qu'elle avait, elle avait vraiment charmé, la dernière fois qu'elle était venue, c'était en 2015, où elle avait donné le concerto de Cornwall.
Qui ne charmerait pas avec ce concerto.
Ah, oui, c'est vrai.
Donc, elle a abordé ce concerto avec énergie et une certaine puissance. Alors déjà, ce qui est étonnant, c'est le bel équilibre qu'il y avait entre l'orchestre et la violoniste. Le violon n'était jamais noyé dans le tutti de l'orchestre.
C'est une des grandes difficultés.
Un gros orchestre. Un quatuor important.
Ah oui, tout à fait. Malgré cela, la soliste passait toujours très bien. Donc, elle a joué avec beaucoup d'énergie dès les premières notes de l'introduction, parce que c'est un des rares concertos où le soliste commence immédiatement, avec un beau legato dans l'andante. Hein. C'est la moindre des choses, hein, évidemment, beaucoup de lyrisme. Et j'ai trouvé que l'intérêt, c'était qu'elle soignait beaucoup les transitions. Hein, qui enchaînait un mouvement à l'autre, en particulier les cadences aussi, donc, où elle jouait seule, évidemment, comme il se doit, dans une cadence. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est les nuances que le chef a obtenues de l'orchestre, des nuances qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Un petit décrescendo à un endroit, un petit crescendo ailleurs, enfin, une vision originale de ce concerto. Elle a été très applaudie, évidemment, la soliste, et elle est revenue pour donner une pièce originale. Alors, il s'agit d'un chant traditionnel écossais. Je me suis fait préciser par elle le titre exact. Ça s'appelle Auld Lang Syne. Auld, c'est écrit A-U-L-E-D, à l'écossaise.
C'est à l'écossaise, évidemment.
À l'écossaise. Et donc, c'est transcrit par le fameux poète écossais Robert Burns et adapté par un certain Petr Limonov, que j'ai découvert.
Encore en écossais, Limonov.
Alors, c'est une balade vraiment très nostalgique et très belle. Une belle conclusion qui venait bien après le concerto de Mendelssohn. Donc, vraiment un moment original. Original, d'ailleurs, comme l'interprétation de la symphonie de Bruckner.
Alors voilà, j'allais venir à cette fameuse 7e de Bruckner, le morceau bravoure.
Voilà, alors cette 7e, c'est évidemment c'est la symphonie la plus jouée de Bruckner. Hein, d'ailleurs, celle qui n'a pas connu plusieurs éditions, contrairement aux autres.
Si, mais un peu moins, mais un peu moins que d'autres.
Il y a un peu moins que d'autres. Il y a un changement avec un coup de cymbale qu'on donne ou pas, mais oui. Il n'y a pas de grande différence entre les éditions. Et donc, bon, cette partition, c'est un peu l'emblème mystique hein, du compositeur et qui traduit notamment dans l'andante et son admiration pour Wagner dont il a appris la disparition alors qu'il était en train de composer cette andante et donc il a introduit des allusions à Wagner, en particulier l'utilisation d'instruments que Wagner avait conçus, les tuben, qui sont une espèce de combinaison entre le cor et le tuba, qui est un instrument très particulier avec une sonorité incroyable, une sonorité d'une grande douceur, d'une grande rondeur, et qui là a été joué de manière magnifique.
Hein, peut-être précision par Serge Krzyzewski concernant cet instrument.
Juste une petite précision, c'est que ces instruments ont été utilisés de façon magistrale d'abord par Wagner, mais ils ont été conçus et construits par Adolf Sax, qui est l'inventeur du saxophone, qui n'a pas inventé que ça.
Du saxophone.
Vous parliez de l'euphonium tout à l'heure, il a beaucoup travaillé sur les tubas, et le résultat a été tuba wagnérien.
Et puis c'est une sonorité particulière, hein, donc très différente. Et ce que l'on peut retenir de l'ensemble de cette interprétation, c'est une certaine manière d'alléger le discours. Certains reprochent à Bruckner, mais moi je ne fais pas ce reproche du tout, d'avoir une orchestration massive, hein, puissante.
Pour ne pas dire lourde, dirait certains.
Certains, oui, mais en fait non, c'est très mystique et c'est un très beau travail d'orchestre. Et le chef Michael Sanderling, lui, il a vraiment allégé les choses de manière tout à fait inhabituelle. Et par moments, moi j'ai eu l'impression d'entendre de la musique de chambre pour grand orchestre, en quelque sorte, puisque les solos d'instruments ressortait beaucoup plus que d'habitude, que dans les interprétations les plus traditionnelles. Moi, j'ai été tout à fait charmé par cette manière de jouer du Bruckner, allégé.
Anne-Marie.
Moi, j'ai été surtout vraiment admirative de l'engagement de l'orchestre et surtout de sa virtuosité dans les pupitres des vents notamment et des pupitres surtout des cuivres avec les fameux tubaines en effet. Sur le plan sonore, sur le plan, comme vient de le dire Serge, c'est vrai qu'il y avait une volonté de faire ressortir les timbres de l'orchestration de Bruckner, ce qui est une chose qui est tout à fait intéressante et qui aujourd'hui d'ailleurs se produit souvent puisque ce côté massif qu'on lui a reproché, c'était peut-être à une époque où on avait une certaine conception de l'interprétation. Aujourd'hui, je pense que Bruckner est rentré aussi au répertoire des orchestres, ce qui n'était pas le cas il y a, je sais pas, 30 ans peut-être. Donc, les orchestres aussi sont beaucoup plus à l'aise dans ce répertoire. Ils sont même très à l'aise. Le Capitole était somptueux, tous les pupitres. Ouais. En même temps, j'ai trouvé que l'interprétation du chef d'orchestre proprement dite était un petit peu pas froide, mais il y avait un manque d'engagement, un manque de lyrisme, y compris dans la adagio, qui était assez lent. Mais c'est vrai, c'était somptueux sur le plan orchestral, mais peut-être qu'il manquait un peu de chaleur, de lyrisme, parce que Bruckner, c'est quand même pas une musique qui manque d'expression. Mais enfin, cela dit, l'interprétation générale était magnifique. Hein. Je trouve que l'orchestre était vraiment au top. Et alors qu'il y a 40 ans, je dis 30 ans ou 40 ans, les orchestres français ne pouvaient pas avoir ce niveau dans ce répertoire, c'est évident.
Effectivement, il a fallu quelques années ou décennies pour que les musiciens français s'aguerrissent dans cette musique et l'acceptent, parce que ça n'a pas tout de suite été évident. Quelqu'un qui aimait bien l'opéra et qui a bien fait connaître Bruckner, de même que Gustav Mahler dans les années 60 et 50, c'est Luchino Visconti, puisque le magnifique adagio est utilisé dans le film Senso, qui est un film déjà quand même qui date soit de 62 ou peut-être 63, peut-être même encore plus ancien, 57 ou 55, avec Alida Valli, voilà, magnifique film d'époque bien sûr, et cette illustration avec le mouvement, bon c'est une splendeur cet adagio de la symphonie numéro 7. Oui, ben, effectivement vous avez tous les deux raison dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y avait eu aussi Josep Pons qui nous avait fait jouer la 4e symphonie d'une manière comme ça plus aérée. Et c'est vrai que maintenant, on peut venir à cette manière de jouer Bruckner. Il y a eu évidemment les grands chefs allemands, la grande tradition allemande, alors évidemment Furtwängler, mais des gens comme Jochum, Böhm, etc., qui ont joué ça de façon beaucoup plus pâteuse, bon, avec des quatuors vraiment énormes. Hein. Là, il y avait une recherche de style qui d'ailleurs était également perceptible dans le concerto pour violon. Ça, c'était très agréable, le soin que le chef a mis à accompagner la soliste et à raffiner un peu quand même l'écriture de l'orchestre. Dans cette symphonie, effectivement, hein, tous les musiciens sont mis à l'honneur. Bon, le quatuor a une partie continue, presque écrasante, mais les cuivres et puis les bois aussi. Alors, c'est très différent de la musique de Mahler qui pourtant procède de celle de Bruckner, parce qu'il est clair que dans l'adagio, bon, il y a des mélodies qui mènent directement, par exemple, à la 4e symphonie de Mahler, qui a été écrite 10 ou 15 ans plus tard. Il y a des voix absolument directes qui mènent à Mahler. Mais chez Mahler, il y a un emploi du timbre instrumental, notamment des solos, des couleurs très différentes. Là, il faut bien entendu rappeler que Bruckner a été un très grand organiste, l'organiste de Saint-Florian à côté de Linz, et que cette couleur d'orgue, avec les jeux d'orgue, les différentes registrations, sont présentes, cette couleur est présente dans sa musique symphonique.
Nous allons laisser Bruckner et sa 7e symphonie maintenant pour écouter Nicola Benedetti dans une interprétation du concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn. Il s'agit du premier mouvement Allegro Molto Appassionato. Thank you. Le premier mouvement Allegro Molto Appassionato du concerto pour violon numéro 2 de Mendelssohn, interprété par la violoniste écossaise Nicola Benedetti, avec laquelle nous terminons de belle manière cette première partie d'émission. Rendez-vous dans une minute avec Emmanuel Sirat pour la seconde partie et pour évoquer avec elle la prochaine édition de Musique au Palais. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, directeur de l'Orchestre En Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, et avec notre invité d'honneur, Emmanuelle Sirat, fondatrice et directrice artistique du festival Musique au Palais.
Mélomanie. L'agenda.
Nous allons donc nous plonger dans le programme de Musique au Palais dans quelques instants avec Emmanuel Sirat. Mais auparavant, je vais donner la parole à Serge Chauzy pour qu'il nous présente le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole. Il a lieu ce samedi 3 novembre à 20h à la Halle au Grain avec un soliste qu'on aime beaucoup à Toulouse, le violoncelliste Edgar Moreau. Il est prévu aussi la création française d'une œuvre à l'occasion de ce concert. C'est bien ça, Serge.
C'est bien ça. Le concert est donc placé sous la direction de Tougan Sokiev et la majeure partie du concert est consacrée à Shostakovich. Mais effectivement, en première partie, en ouverture, il y aura la création française d'une pièce intitulée « Itinéraire d'une illusion » du compositeur chinois Qigang Chen. Et puis, le reste du concert sera donc consacré à Shostakovich avec tout d'abord le deuxième concerto pour violoncelle et orchestre, joué en soliste par le jeune Edgar Moreau, qui est déjà venu plusieurs fois à Toulouse, assez souvent même, et qui est vraiment un très grand violoncelliste. Je rappelle qu'il a été soliste instrumental 2015 des Victoires de la musique classique, entre autres. Il a
nombreuses récompenses.
De prix récompenses à son tableau. Et là, il jouera donc le deuxième concerto qui a été créé par Mstislav Rostropovitch et dédié à lui-même, créé en 1966, sous la direction d'ailleurs de Svetlanov. Ensuite, nous aurons une œuvre plus connue et jouée d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pendant une happy hour de l'Orchestre du Capitole, la 5e symphonie de Shostakovich, la plus jouée, qui est vraiment une œuvre formidable et donc que l'on réécoutera avec un grand plaisir. Je signale que ce programme sera également donné à la Philharmonie de Paris le 5 novembre lors des concerts réguliers que l'Orchestre National du Capitole donne dans cette belle salle.
Voilà donc Edgar Moreau, l'Orchestre National du Capitole, Tougan Sokiev, ce samedi 3 novembre à 20h à la Halle au Grain. Et puis le concert suivant aura lieu le vendredi 9 novembre, toujours à 20h à la Halle au Grain, avec le pianiste Dinesh Varjon et un programme où il y aura du César Franck et du Franz Liszt. À nous maintenant, Emmanuel Sirat, pour la 4e édition du festival Musique au Palais que vous organisez à Toulouse au Palais Niel le week-end du 24-25 novembre. Deux après-midi de concerts et une programmation variée que vous avez intitulée Beethoven, ce génie pour le samedi et un voyage aux Amériques et en Espagne pour le dimanche. On va regarder ça en détail avec vous. Je voudrais avant qu'on rappelle ce qui fait l'originalité de ce festival qui a deux particularités. Le type de musicien qu'il reçoit et le lieu où il se tient. Alors, les musiciens, il y en a de deux statuts et ils sont rarement réunis ensemble.
Effectivement, l'association Musique au Palais a été créée en 2015 pour réunir le temps d'un festival des artistes grands amateurs, menant de front vie professionnelle et carrière musicale, des professionnels et aussi des jeunes talents et des jeunes talents en voie de professionnalisation. Tout ça autour d'un même thème et de 6 concerts dans le week-end.
Notamment, il y a des élèves de conservatoire qui sortent tout juste du conservatoire. Et puis, il y a ce lieu exceptionnel, le Palais Niel, qui est fermé au public le reste de l'année, en dehors des journées européennes du patrimoine. Mais bon, là, on le voit, on le découvre dans d'autres conditions. Okay. Et alors, pourquoi est-il fermé, d'ailleurs, ce lieu ?
C'est un lieu exceptionnel. C'est le grand salon du Palais Niel qui se situe au Grand Rond à Toulouse et qui est le QG de l'armée de terre et des parachutistes. C'est un site militaire, un lieu privé qui abrite la 11e brigade parachutiste. Le général et son équipe y logent. C'est à mon avis une des meilleures acoustiques de Toulouse, je pense, à cause du bois, de la hauteur de plafond. D'ailleurs, il a été construit par le maréchal Niel pour ça, pour y faire un salon de musique. Il est idéal donc pour faire de la musique, mais également pour découvrir ce lieu fermé au public le reste de l'année et pour pouvoir se promener dans son parc, qui est magnifique également.
Voilà, parce que entre les concerts, il y a des entractes assez longs et on peut en profiter pour aller se balader dans le parc et puis pour découvrir toutes les façades, découvrir le Palais Niel sous toutes ses facettes. Voilà donc pour ce lieu magnifique, on en vient à la programmation de ces 4e édition avec, comme chaque année, une thématique propre aux deux journées. Je le rappelle, donc le samedi, c'est Beethoven, ce génie. Pourquoi vous avez voulu honorer le grand compositeur allemand cette année ? Il y a une raison particulière ou c'est tout simplement votre goût personnel ?
C'est mon goût personnel, tout à fait personnel. En 2016, on avait déjà eu une petite partie autour de Beethoven, et je voulais tout mettre. La sonate à Kreutzer, des trios, des... Voilà. Beethoven, pour moi, c'est vraiment le plus grand des compositeurs.
C'est celui que vous mettez au-dessus de tous les autres.
Exactement.
Et bien voilà, pour ce qui vous concerne, on le sait maintenant. Alors là, l'après-midi. Tous les concerts ont lieu l'après-midi, se succèdent sur 3 tranches horaires. Le samedi, ça commence à 14h. Donc c'est la journée Beethoven, ce génie, et ça commence par Haydn.
Bon, mais pourquoi? Et oui, ça parce commence... que le maître de Beethoven, entre autres. Donc ça commence par Haydn avec... Serge Krichensky qui nous interprétera avec un quintet hautbois et cordes, un concerto pour hautbois de Haydn. Peut-être il voudra en dire.
Oui, justement, je vais en profiter tout de suite là, pour lui passer la parole. Ce concerto pour hautbois de Haydn, alors c'est vous qui l'avez choisi, le concerto pour hautbois, Serge, ou c'est Emmanuel qui vous l'a suggéré ?
Non, Emmanuel me l'a plus que suggéré.
Je l'ai un peu imposé, comme j'ai fait souvent avec
imposé.
Mes artistes.
Vous l'avez déjà joué vous-même en concert ?
Ah oui, en concert et même en concours. Enfin, c'est un concerto qui m'accompagne, qui semble marquer des jalons réguliers de ma carrière et de ma vie. Oui, pour l'entrée au CNSM en particulier à Paris. Voilà, ouais.
Et Haydn, compositeur, ça je le sais que vous mettez très très haut.
Oui, absolument, que j'ai le grand plaisir de jouer régulièrement et de diriger avec l'Orchestre en Harmonie. Et puis, en l'occurrence, que je regrette de ne pas jouer plus souvent avec l'Orchestre du Capitole, parce que c'est extrêmement rare dans les programmes du Capitole, mais bon, voilà, on fait d'autres choses. Mais je me rattrape un peu avec l'En Harmonie, mais c'est vrai que c'est un compositeur qui... Au-delà des symphonies et puis des œuvres qui vont être jouées, il y aura également un trio hein, le soir, un magnifique compositeur.
On va en parler.
Voilà, il y a aussi un répertoire de quatuors à cordes fabuleux qui est là aussi au Clé de Saint-Pierre trop peu proposé parce que bon, c'est pas facile, mais c'est moins peut-être brillant a priori que un Beethoven, un Shostakovich, etc. Oui, très grand compositeur.
Alors, comme on parlait de ce concerto pour hautbois de Haydn, je ne suis pas certain que tous nos auditeurs le connaissent. On va en écouter un extrait avec un très grand oboïste, François Leleu. Écoutez ce concerto pour hautbois de Joseph Haydn. Thank you. Voilà, le concerto pour hautbois de Joseph Haydn, interprété ici par François Leleu. On va passer maintenant à la suite de cette journée du samedi, la tranche qui va commencer à 16h15, et là ça va être intégralement du piano. Deux solistes vont se succéder, Ariel Sirat qui va nous jouer quoi? Et c'est pas du Beethoven non plus.
Non, on démarre par Bach. Je trouvais que ça se mariait très bien, Bach et Beethoven, surtout les Goldberg et la 110.
Voilà, donc ce sera les variations Goldberg, rien que ça.
Voilà, les variations Goldberg. Et ensuite, la sublime sonate 110, et on retrouve le jeune Vincent Martinet.
On l'avait entendu l'an dernier, qui avait beaucoup impressionné d'ailleurs.
Tout à fait.
Toute la salle, je me rappelle.
Et qui est au Conservatoire National de Musique
élève,
de Paris.
Élève des lois urbains, je crois. Oui.
À la base, oui, et puis qui maintenant, je crois, est l'élève de Denis Pascal.
Oui, au CNSM, oui, oui, absolument.
Et chez Denis Pascal, à Paris.
Et donc, il va jouer la sonate opus 110. On parle souvent de la 111, mais la 110 est merveilleuse aussi.
Exactement.
Extraordinaire. Extraordinaire œuvre, oui, oui, oui. Et puis, venant après les variations Goldberg, je trouve que c'est tout à fait approprié.
Ça va très bien ensemble.
Ah, oui, oui.
Alors c'est bien que Serge Chosy prenne la parole, là, puisque vous allez être monsieur loyal pendant les deux journées.
Oui, la troisième année.
Vous allez présenter les concerts.
Pour la troisième année, oui, successive. C'est un plaisir parce que c'est un petit comité, finalement, dans ce magnifique salon. Et donc, oui, voilà, je vais simplement introduire un peu les œuvres pour ceux qui ne les connaîtraient pas ou...
Mais vous faites ça très bien, comme vous le faites à cette émission, on vous fait toute confiance. Alors, le dernier concert de la soirée commencera à 18h, et là, c'est encore les musiciens qu'on est habitués à entendre au Festival Musique au Palais, le trio Zadig. Ah, vous les aimez bien, ceux-là, hein ?
Oui, je les aime beaucoup. Ils viennent donc pour la troisième année, Marc, Boris et Yann, ce sont des fidèles du Festival Musique au Palais, par leur charisme, par leur jeunesse, par leur fougue et par leur musique, bien sûr.
Je voudrais préciser, c'est vraiment chaque fois un grand moment.
Hein. Voilà, c'est un grand moment.
C'est un trio magnifique.
Ils sont lancés dans une carrière un peu dans les pas du trio Wanderer, on peut le dire.
Tout à fait.
Grande carrière internationale, non pas qui se profile, mais qui a déjà commencé. Alors, il y a deux Toulousains parmi les membres du trio Zadig, je voulais le préciser. Ils n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui, j'aurais bien voulu, mais ils vivent à Paris, évidemment, comme tous les musiciens qui font une grande carrière internationale. Néanmoins, j'ai pu faire une petite interview téléphonique avec Marc-Gérard Garcia, le violoncelliste. Lui et ses camarades se sont déjà produits trois fois à Musique au Palais, vous l'avez rappelé, Emmanuel Sirat. Et bien, on va écouter Marc-Gérard Garcia nous dire pourquoi le trio Zadig aime participer à ce festival.
Ça nous plaît parce que c'est une ambiance très familiale. On aime beaucoup le principe en fait de mélanger des jeunes talents avec des musiciens professionnels plus accomplis. Donc nous voilà, nous c'est la troisième fois. Puis le cadre est assez atypique, le Palais Niel. Moi j'habite juste à côté en fait à Toulouse. J'avais jamais eu l'occasion d'y rentrer, donc c'est vraiment une salle avec une acoustique assez généreuse, mais qui se prête bien. Un lit de chambre, voilà, avec plaisir qu'on retourne chaque année à ce festival.
Pour cette édition 2018, vous allez donc jouer le samedi 24 novembre à 18h avec un programme où l'on trouve le trio avec piano numéro 43 de Joseph Haydn et le trio avec piano opus 97, dit Archiduc de Beethoven. Si je vous demande de présenter ces deux œuvres en quelques mots, qu'est-ce que vous en diriez ?
Alors c'est un programme qui a été choisi du coup en concertation avec Emmanuel Sierra, la directrice artistique du festival, parce que c'est une journée autour de Beethoven. Et du coup, Beethoven, le trio Archiduc, c'est le septième, c'est le trio le plus connu, l'œuvre phare du trio avec piano. Donc voilà, c'est une œuvre très très majestueuse, assez profonde, qui raconte vraiment toute une histoire qui est assez longue, mais qui vaut vraiment le coup. Du coup, on a trouvé intéressant de présenter ce trio quand on a l'occasion d'en jouer un seul comme ça, et couplé en fait avec le trio de Haydn, qui est un des derniers trios finalement, il a été écrit juste 15 ans plus tôt que le trio de Beethoven. Donc c'est le trio numéro 43 en do majeur, qui est une pièce assez légère, assez fraîche et divertissante, mais avec voilà un deuxième mouvement, des passages très très dramatiques aussi, donc qui est très complète. Voilà, c'était un beau programme, je pense, de trio, et ça sera samedi à 18h.
Est-ce que ce sont des œuvres que vous êtes habitué à jouer en concert avec vos deux camarades du trio Zadig?
Oui, on a joué beaucoup le trio de Haydn et l'Archiduc notamment. Le trio de Haydn, c'est un des premiers trios qu'on a travaillé, donc c'est vrai qu'on joue beaucoup. On joue beaucoup aussi le final du trio en bis, qui marche très bien, qui est très très pétillant, qui est très prenant pour le public. Et l'Archiduc, voilà, on l'a joué, on a tourné ça l'été dernier, on a fait beaucoup de concerts avec, donc voilà, c'est deux œuvres qu'on a vraiment mûries, et donc on est très content de les rejouer.
Voilà, Marc-Gérard Garcia au téléphone. Le programme qu'ils vont jouer, ce trio 43 de Haydn et le trio Archiduc de Beethoven, c'est aussi vous qui leur avez imposé en quelque sorte, Emmanuel Sirat ?
Oui, c'est moi. En fait, j'impose un petit peu à tout le monde et puis après on discute. Parce que des fois, ils l'ont pas dans leur répertoire ou sous les doigts. Et voilà. Mais l'Archiduc, je savais qu'il l'avait déjà. Le Haydn, il le joue depuis longtemps, donc...
Effectivement, il le joue d'ailleurs depuis si longtemps que je vais pouvoir vous en faire écouter un extrait. Le premier mouvement allegro du trio avec piano numéro 43 de Haydn, joué par le trio Zadig. On l'écoute tout de suite. Le premier mouvement allegro du trio avec piano numéro 43 de Joseph Haydn, joué par le trio Zadig, qui va donc le donner samedi 24 novembre lors du dernier concert de la journée à partir de 18h. On passe maintenant à la programmation du dimanche 25 novembre avec ce titre Voyage aux Amériques et en Espagne. Et là, le premier concert de la journée commence à 14h30. Vous l'avez intitulé Le Nord, il faut comprendre l'Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'on va y entendre?
Alors, on va entendre Dvorak, le quatuor américain, qui sera interprété par le quintet à vent de la musique des parachutes. Donc qui viennent jouer chez eux.
À domicile.
Des musiciens, mais aussi des militaires, hein, il faut le préciser. On va entendre aussi des pièces célèbres de Gershwin et bien sûr une partie comédie musicale Broadway, intitulée Welcome to Broadway, avec une jeune chanteuse très talentueuse qui vient avec sa pianiste.
Qui s'appelle ?
Déborah Tardy, la chanteuse, et Katia Nemirovsky, la pianiste.
Voilà, donc ça, ce sera à 14h30 le dimanche. À 16h30, après le Nord, le Sud, donc l'Amérique du Sud. Un programme qui va être présenté par Solange Baselli, grande connaisseuse du tango et de l'Argentine. Voilà, qui donne déjà une idée de ce qu'on va entendre.
Effectivement, donc l'Amérique du Sud avec des pièces célèbres de Piazzolla. Et puis, on a la chance d'avoir le bandoneoniste et compositeur Marcelo Mercadante, qui est barcelonais. Et voilà, donc Solange Baselli lira des textes. Elle est la spécialiste de cette musique sud-américaine et de la culture sud-américaine également.
Donc Piazzolla, bien sûr, mais aussi le Brésilien Villa-Lobos, Ginastera, autre Argentin. Là, on va vraiment voyager en écoutant cette musique et puis en écoutant aussi Solange Baselli nous présenter ça. 18h30, concert de clôture du festival, l'Espagne, avec d'abord le jeune pianiste toulousain Vincent Mussa, encore un jeune talent, mais alors lui qui est bien lancé, pour une grande carrière, je pense. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il va nous jouer?
Granados.
Les Goyescas. La 1 et 4, donc Goyescas de Granados. Ensuite, alors ça sera le clou de la journée, le duo du guitariste Gilbert Clamins et de la soprano Magali Léger avec leur programme Cantares. On ne présente plus Magali Léger, très belle soprano qui se produit souvent à Toulouse et dans la région depuis quelques années. Quant à Gilbert Clamins, c'est un de nos grands guitaristes classiques d'Occitanie. Il enseigne son instrument au conservatoire d'Albi. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce programme Cantares qu'ils vont nous interpréter?
Alors, ils vont nous interpréter des airs d'Espagne, Lorca, Albéniz, Granados, des pièces qui ont été arrangées pour guitare et voix par Gilbert Clamins, qui est également compositeur. Voilà, et puis toute une pelletée de programmes d'Espagne que nous aurons la joie d'entendre par Magali Léger.
Voilà, florilège espagnol que ce Cantares, interprété par Gilbert Clamins et Magali Léger. Je vous propose d'en écouter justement un florilège d'extrait cette fois-ci, Cantares par Gilbert Clamins et Magali Léger.
Thank you.
Florilège d'extraits de Cantares, le programme que vont donner le guitariste Gilbert Clamins et la soprano Magali Léger lors du concert de clôture de la prochaine édition de Musique au Palais, dimanche 25 novembre à 18h. Eh bien, nous avons fait le tour de la programmation de Musique au Palais, nous allons donc conclure cette émission. Merci à Anne-Marie, Robert et aux deux Serge d'y avoir participé. Et merci à vous, Emmanuel Sirat, d'en avoir été l'invité d'honneur. Je rappelle que le festival Musique au Palais a lieu le week-end des 24-25 novembre à Toulouse, au Palais Niel. Concert le samedi à 14h, 16h15 et 18h. Et le dimanche à 14h30, 16h30 et 18h30. Vous pouvez assister à 1, à 2, à 3 concerts ou aussi si vous voulez. Toutes les formules sont possibles. Un impératif toutefois, il faut obligatoirement avoir réservé vos places avant le 21 novembre. Il sera impossible d'acheter vos billets le jour même au Palais Niel, pour des raisons de sécurité que vous pouvez imaginer. Pour réserver et acheter ces places, vous pouvez vous connecter au site du festival www.musicopalais.org où vous trouverez la rubrique « Acheter vos places » ainsi que tous les détails de la programmation dont nous venons de parler. Notez que vous pouvez également acheter vos places à l'Office de Tourisme de Toulouse, toujours jusqu'au 21 novembre, pour les prochains concerts de l'Orchestre National du Capitole, ce samedi 3 novembre avec le violoncelliste Edgar Moreau et le vendredi 9 novembre avec le pianiste Dinesh Varjon, à chaque fois 20h. Je vous invite à vous connecter au site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr pour faire vos réservations et découvrir le détail du programme qu'ils vont jouer. Et enfin, je signale que le premier concert de la saison des grands interprètes a lieu le mercredi 7 novembre à 20h à la Halle au Grain avec plusieurs chanteurs solistes qui seront accompagnés par l'ensemble Il Pomodoro, dirigé par Maxime Emilianichev. Ils vont interpréter Circé, l'opéra de Handel, en version concert. Réservation sur le site www.grandsinterprètes.com. Merci à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission, qui est disponible comme d'habitude et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.